CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Qu'est-ce qui suit print?
Rien, c'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne sont pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder Bye Bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans le futur.
On le sait, la téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. Deux nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon.
Bon, oui, midi 1, 32 secondes, 33, 34, 35. Bref, vous êtes en compagnie d'Éric Laverdure dans votre émission de Devant vos écrans. Une belle émission en ce beau mercredi 4 novembre 2020. C'est important que je dise la date aujourd'hui parce que si vous écoutez en rediffusion, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas nécessairement réelles ou bien... Mais pas réel, mais à jour, là. Je pense qu'il faut être honnête avec ça. Alors, gros show aujourd'hui, gros show. C'est sûr que je vais revenir sur les élections américaines, bien sûr, étant bachelier en politique et en tant grand fan des élections américaines, je vais en parler un peu de cette ambiance, un peu de Super Bowl que j'ai vécu hier avec quelques copains. Bref, c'était assez intéressant de suivre le tout. Sinon, du côté techno, hein, plusieurs autres nouvelles. Qu'on va parler, on va en fin d'émission parler sur la nouvelle loi sur les radiodiffusions du CRTC, en fait du gouvernement de monsieur le ministre Stephen Guilmeau, ministre du patrimoine, qui l'a annoncé hier, on va en parler un petit peu plus. On va également parler de robots chez Walmart, on va parler de jeux vidéo, on va parler de plein de choses, bref, tout ça et encore plus devant vos écrans, votre seule émission qui parle de tout ce qui se passe devant vos écrans avec un gros D. Alors, ben commençons ça, cette émission-là, et comme d'habitude, ben j'ai plein de nouvelles transitions pour vous, alors on va parler politique américaine. Ah, qu'on aime ça, on aime ça. Alors oui, effectivement, parlons politique américaine. Je voulais faire un petit éditorial, je voulais parler avec mon cœur, parler avec mes émotions. Bref, on se réveille ce matin, hein? Ce midi, oui. Alors, ce midi, si vous êtes comme moi, ben vous avez sûrement le New York Times ou un autre média de grand intérêt qui est sur votre ordinateur et qui vous dit les résultats pour les gens qui seraient intéressés, les gens qui sont dans leur voiture, dans leur bureau, bref, qui m'écoutent. Je vous remercie, premièrement. Et deuxièmement, c'est ça, les résultats. Pour l'instant, au Sénat, on est dans un blocage à 47 contre 47. Pour la congressmen, en fait, pour le congrès, on est à 194 pour les représentants, pardonnez-moi, on est à 194 pour les démocrates à 185, et les résultats qui nous intéressent le plus, pas fans de politique, nous Canadiens, hein, parce que, comme on le sait, quand les États-Unis pètent, nous, on sent tout ça, c'est les résultats du vote de la présidence. Alors actuellement, Joe Biden est en avance avec 227 voix au collège électoral, tandis que M. Donald Trump, le président sortant, est à 213 voix. Mais il faut attendre les résultats de plusieurs États, de l'Arizona notamment, du Wisconsin, du Michigan et surtout de la Pennsylvanie, qui semble être pour le moment en faveur de M. Trump, mais il y a plein d'autres résultats qui ne sont pas encore sortis. C'est ça la beauté, en fait, de cette grande élection-là, hein, le plus grand cirque, comme certains commentateurs politiques américains voudraient l'appeler dans le monde. Hein, c'est le cirque politique des États-Unis, ce cirque, hein, ce pays qui est constamment en élection, parce que même quand les élections vont se terminer un jour, mettons, on va dire le 21 janvier, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle présidence, plein de gens vont commencer leur campagne électorale pour se faire élire dans 2 ans parce qu'ils ont des élections à chaque 2 ans. environ, là, si je me trompe, mes cours de politique américaine sont un peu loin, mais il y a quand même des élections constamment aux États-Unis, alors c'est pour ça que c'est important. C'est une grosse bulle politique. Qu'est-ce que je voulais commenter, en fait, c'est que c'est sûr que là, ce matin, on a Donald Trump qui n'a pas hésité, en fait, à mentionner que il y avait peut-être de la fraude électorale. En fait, ben, moi, j'ai ajouté le peut-être, mais pour lui, il y a eu de la fraude électorale, étant donné que beaucoup, en fait, un grand nombre de votes vont être comptés à la fin de ce processus et ils vont être aussi comptés, en fait, ils sont comptés après les votes en vrai. Alors, les gens qui sont allés voter hier, leurs votes ont déjà été comptés, mais les votes qui sont tous arrivés par la poste ont jusqu'à vendredi dans certains États pour arriver et pour être comptés. Alors, c'est pour ça que les élections de cette année sont particulières. COVID oblige, on le sait, cette pandémie qui a forcé les gens à ne pas nécessairement... En fait, il y avait des gens qui avaient peur de contracter la maladie en allant dans les bureaux de vote. On ne savait pas vraiment si les bureaux de vote allaient être bien sécuritaires. Alors, c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de gens qui ont voté à distance. Mais la plupart de ces gens-là, c'est des démocrates parce que Donald Trump, le président républicain, n'a pas arrêté de marteler un message qui rappelait aux gens que ce vote à distance, c'était frauduleux, ça n'allait pas fonctionner, c'était pas légal, même si c'est légal. Alors là, beaucoup de gens républicains sont allés voter en vrai, tandis que beaucoup de démocrates ont voté à la maison ou à distance par courrier. Alors c'est pour ça qu'il y a peut-être un plus grand nombre de votes démocrates qui sont comptabilisés à l'instant où on se parle. Mais malheureusement, ben ça n'aidera pas la confiance envers un système électoral assez complexe. Hein, quand on y pense, hein, des pays vraiment moins modernes que les États-Unis sont quand même dans des résultats beaucoup plus rapidement parce que l'élection, on va dire, le système électoral est basé sur la bonne foi et sur la neutralité et non la partisanerie comme il l'est aux États-Unis. Ça, c'est un des grands problèmes. Par exemple, tous les plusieurs États étaient affectés par des lois qui ont été passées par des gouvernements républicains, par exemple, et qui mettaient des gens, en fait, qui plaçaient des restrictions sur les gens qui pouvaient aller voter, ou même les heures de vote, ou même les nombres de bureaux de vote, le nombre de boîtes pour ramasser les bulletins. Bref, il y a ça d'assez particulier aux États-Unis que tout ça est politique. Mais moi, sur le point que je voulais ramener, bon, alors je me cache rarement, je suis une personne qu'on peut dire un socialiste de gauche en politique, et j'ai un constat à faire ce matin pour dire que finalement, le Parti démocrate se sont royalement plantés. Même les médias se sont royalement plantés. Je sais que c'est facile de blâmer les médias actuellement, c'est même une de nos choses préférées qu'on fait depuis les 4 dernières années, mais au final, encore des sondeurs, encore des médias qui ont dit « Regardez, c'est sûr qu'il y a 4 ans, c'était différent, mais là, on a amélioré nos comptabilités, on a amélioré notre comptage, on a amélioré nos sondages et tout ça. Alors, il ne devrait pas avoir vraiment de différence entre nos sondages et les résultats. Vous allez voir ça, ma petite madame, ça va bien aller. » Et là, finalement, hier, on se rend compte que l'avance qui était pensée que Biden allait avoir, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Et on se retrouve au coude actuellement ce midi pour les résultats des élections américaines on a l'impression que Biden, finalement, n'a pas réussi à aller chercher les voteurs qu'il désirait aller chercher. Notamment, dans plusieurs sondages, on le voit qu'il n'a pas eu le même appui de la part des Latinos comparé à Clinton, même comparé à Obama. Alors, ce qui veut dire qu'on a peut-être aussi encore une fois au Parti démocrate, et ça, malheureusement, ça arrive trop souvent, on s'est assis sur nos lauriers et on s'est dit... Vous allez voir, la classe ouvrière va encore voter pour nous. Les gens des minorités visibles vont encore voter pour nous. Puis nous, on a juste besoin de se consacrer à aller chercher le vote des petites madames républicaines dans les banlieues. Alors, c'est ça qu'ils ont fait et on voit maintenant le résultat. Par la suite, ils ont continué avec un message très corporatiste. Au final, la différence entre le Parti républicain et le Parti démocrate, il y en a de moins en moins. C'est deux partis qui sont là pour faire rouler l'économie, ça c'est sûr. Mais pour le reste, par exemple, pour des soins de santé, pour l'égalité, pour l'equality aussi, pour une plus grande... des meilleures conditions de vie, de travail, d'études pour cette population-là. On a encore mis ça en dessous du tapis et ça finit qu'on a des résultats pathétiques comme ça pour le Parti démocrate qui n'ont pas été capables de se relever de la défaite de 2016 et qui ont continué dans les mêmes traces. Et encore, actuellement, aujourd'hui, je ne peux pas croire que le seul candidat viable pour les démocrates était Joe Biden, un homme d'une 80aine d'années avancées, qui a de la misère à se rappeler son nom, qui a de la misère à se rappeler le nom des gens importants, des endroits qui est là. Il y avait un problème dans la candidature. Je ne peux pas croire qu'au mois de mars, lors des primaires, c'était le seul candidat. Je peux, oui, comprendre que l'establishment du parti a de la misère avec Bernie Sanders, hein, parce que quelqu'un qui veut donner des soins de santé puis qui veut pardonner des frais étudiants qui sont vraiment incroyables aux États-Unis, ben ça, ça marcherait pas, ce serait pas electable, ce ne serait pas électoral, ça pourrait pas être élu. Mais finalement, on a le candidat qui était comme du Kool-Aid à moitié de sucre, comme Joe Biden, qui a finalement pas réussi à aller chercher aussi ces Américains-là qui étaient déçus par le système politique. Parce qu'un vote pour Trump, c'est un vote aussi anti-système. Et même si Trump fait partie du système, pour certains Américains, il est vraiment moins pire que les démocrates, que ça fait des quarantaines d'années qu'on ment aux Américains. On peut se rappeler en 2008 avec Obama. Obama qui était « Oh, regardez, on va changer le monde et tout ça ». Finalement, Obama a fait les mêmes politiques que George Bush. Ils ont juste changé un petit peu. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on nettoie un peu tout ça. On lui donne un vernis un peu plus propre. Et finalement, on se retrouve avec les mêmes politiques d'impérialisme américain qui va tuer des gens partout dans le monde. Mais au lieu de le faire avec des soldats comme George Bush l'a fait en Irak, il l'a fait avec des drones en Syrie. C'est la seule chose qui différencie les deux. Les deux candidatures, au final, c'est la même machine électorale, malheureusement, qui fait voter, qui vote les mêmes politiques. Alors oui, malgré que là, actuellement, on a tous hâte de savoir si Biden va réellement l'emporter, parce que, ouf, ça va nous donner un peu de temps de répit. Il va malheureusement continuer les mêmes politiques que Trump a toujours continué. Il l'a dit dans des speeches plusieurs fois, « Nothing will really change ». Tu sais, il n'y a rien qui va changer quand Biden va rentrer. Il va peut-être avoir, oui, peut-être pour la question des immigrants venant du Mexique, oui, il va peut-être avoir moins de racisme dans les politiques du gouvernement. Mais il y a toujours un certain racisme économique de toute façon. C'est bien beau de dire qu'on va ouvrir la porte à des milliers d'immigrants, mais si on n'est même pas capable de leur assurer un minimum de soins de santé, un minimum de logis, on n'a rien avancé en tant que pays moderne. Et c'est ça que je pense qui blesse aux États-Unis actuellement, c'est que malgré des grands rêves, malgré l'exceptionnalisme américain, qu'on est si différent, on est si beau que les autres, finalement, on se retrouve avec le même terrain de jeu qu'on avait il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans, il y a 20 ans presque. Alors, rendu là, je pense que c'est un électrochoc qui doit se donner. Je pense qu'à la suite de cette élection-là de 2012... de 2020, pardonnez-moi, si seulement on est en 2012, on va se retrouver avec des nouvelles fondations de partis politiques. Moi, je ne peux pas croire que les progressistes du Parti démocrate vont rester à bord de ce bateau-là. Je pense qu'on devrait juste... Ils devraient juste laisser l'aile corporative du parti, l'aile démocrate capitaliste du parti, se couler elle-même et, eux, aller chercher l'électorat populaire qui ont besoin d'un projet de société. On manque de projets actuellement. Oui, le combat contre la COVID est un beau projet et, effectivement, c'est un projet qu'on est obligé de faire. Mais il manque de projets pour faire rêver la population. Il manque de projets pour améliorer les conditions de la population. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas eu hier dans le Parti démocrate. Alors, si on veut blâmer une personne pour la défaite ou pour le problème de victoire de Joe Biden actuellement, c'est pas Bernie Sanders, c'est pas les progressistes du parti, c'est pas le Parti vert, c'est le Parti démocrate et c'est juste ceux qui ont à se blâmer. Là-dessus, on s'en va rapidement en publicité puis on revient avec des sujets peut-être un petit peu moins lourds.
Capitaine, capitaine, capitaine. Ben. Regarde-moi les boys faire du rafting. Malade! Regarde comment j'ai des bons chums. Regarde comment ils sont blocs. Regarde ma fête, ils m'ont acheté des raquettes d'aluminium. Regarde-moi, c'est samedi soir. Puis samedi soir, je sais, achète à tous le cœur. Regarde-moi regarder la game avec mon chandail Carey Price. Regarde le chandail Carey Price, j'achète au Centre Bell. Regarde-moi puis les boys au Centre Bell. Regarde, c'est qui ce qui a les meilleurs sièges du Centre Bell. Regarde le Centre Bell.
Les beaux souliers que je viens de m'acheter. Alors, regarde ma dernière montre. Alors, regarde, c'est qui se cassé qu'à nouveau cellulaire. Alors, regarde, c'est la saison de barbecue. Alors, regarde le nouveau balcon. Alors, regarde la rallonge à la maison. Alors, regarde, on s'est fiancé. Regarde la limousine pour mon bachelor party. Alors, regarde, on s'est marié. Alors, regarde, je suis rendu sage. Alors, regarde mon bébé. Le condom détaché. Le condom s'en va dans le feu.
Mais depuis que vous êtes là, on dirait que l'urgence monte le temps. J'ai de plus en plus la frousse pour trouver dans ce monde de fous. J'ai peur que mes bras comme armure ne suffisent pas. Pourquoi des legos d'hommes et de femmes qu'on met au monde se retrouvent ainsi menacés à chaque seconde? L'inertie des insouciants. Mais comment ne pas frémir quand je pense que tout ça vous attend. Le seul moyen que j'ai trouvé pour me sécuriser, c'est de crier ma rage et sur mon drame de me défoncer. En attendant que les bombes s'effacent de mes promesses, je vous jure de tout faire ce que je peux pour éviter que le bas blesse. Pourquoi des lagos d'hommes et de femmes qu'on met au monde se retrouvent ainsi menacés à chaque seconde? Les désaxés, les fanatiques, l'inertie des insouciants. Mais comment ne pas frémir quand je pense que tout ça vous attend? Je me chute d'espoir, mais j'ai la lourde appréhension de mon regard d'adulte sous contention. Par la passivité du monde, sa vitesse et ses camps.
femme à ne pas frémir quand je pense que tout ça vous attend. Si seulement on pouvait vous aimer gros comme la terre, si seulement on faisait en sorte que vous puissiez vous y plaire.
Midi 25, toujours en compagnie d'Éric Laverdure dans devant vos écrans, en espérant que vous allez toujours bien et que vous vous portez bien, hein, parce que dans ces situations, dans ces cas, dans cette période, plein de mystères et plein de peut-être sursauts, bref, en espérant que vous allez bien, il faut parfois que ce soit important. Alors oui, parlons de nouvelles techno en rafale, des choses qui sont arrivées sur mon radar à devant vos écrans. Je vous ai parlé de la semaine dernière de ce fameux report de Cyberpunk 2077. Et il y a une raison, en fait, à ce report de ce jeu tant attendu. Alors, la compagnie CD Projekt Red a partagé un nouveau commentaire sur le retard. En fait, ils ont accusé les consoles. C'est une façon de parler. Ils ont dit, en fait, que c'était à cause des consoles de la génération actuelle. Alors, lors d'une téléconférence avec plusieurs journalistes, le PDG de CD Projekt Red, Adam Kinski, a évoqué, en fait, que sortir le jeu le 19 novembre, comme c'était prévu, était possible, mais avoir 3 semaines de plus avant la sortie du 10 décembre, ça leur permet de réparer certains problèmes, notamment sur des questions, en fait, sur des consoles de génération actuelle. On peut parler de la Xbox One et la PS4, en fait, parce qu'on sait que la génération suivante sort très bientôt. En fait, je pense que même ça sort bientôt, même dans les prochains jours. C'est ça. Il y avait besoin d'un peu plus de temps pour s'assurer que tout soit bien. Parce que oui, c'est bien sûr que le jeu sur PC fonctionnait bien. Le jeu sur les nouvelles aussi, consoles, fonctionne bien. Mais ils voulaient s'assurer que tout fonctionne pour les consoles de génération actuelle. C'est quand même une bonne chose, parce que s'il y a bien un élément qui peut gâcher une sortie d'un jeu, eh bien, c'est quand que le jeu n'est pas prêt. Quand le jeu n'est pas prêt, c'est un peu plate, en fait, pour les gens qui l'ont acheté et qui, par exemple, ne fonctionnent pas ou a des bugs et qui peuvent tuer l'expérience de jeu. Alors, c'est un troisième retard en un an, comme je vous le rappelais la semaine dernière. On se rappelle que le lancement avait d'abord été confirmé en avril, puis ensuite repoussé en septembre. Et ensuite en novembre, pour être ensuite reporté le 10 décembre. Mais selon les journalistes, on est sûr à 100% que dès le mois de. En fait, la sortie du mois de décembre, c'est la bonne. Sinon, du côté des élections de la Californie, surtout, en fait, ça s'est passé hier. En fait, c'est Uber et Lyft, deux entreprises de chauffeurs / livraison à la demande, resteront indépendantes en Californie. Alors, c'est une nouvelle qui touche, oui, moins la technologie en tant que telle, mais en même temps, c'est des entreprises qui font partie de cette bulle technologique de la Silicon Valley et qui est devenue tellement populaire depuis qu'on a des téléphones dans nos poches. Et aussi, c'est la diversification des services qui existent. Alors, c'est Uber et Lyft qui ont remporté une victoire majeure dans leur bataille pour continuer à classer les chauffeurs comme des sous-traitants et non comme des employés après l'adoption d'une mesure de vote qui les exempte d'une loi du travail californienne. Alors, c'était la loi qu'on appelle le AB5 qui avait été passée en 2019 et qui modifiait la façon dont les entreprises classent les employés. Ça changeait radicalement les façons de faire de Uber et Lyft, parce qu'il ne faut pas oublier que ces compagnies-là, comme DoorDash ici ou c'est en Estrie, bref, on pense à toutes ces entreprises-là, un peu à la Uber. Au final, tu deviens sous-traitant pour cette entreprise-là. Tu deviens un peu ton propre boss, hein? Ça me fait penser à Quickstar puis à Herbalife, là. Mais c'est ça. Alors, tu te fais dire que tu deviens ton propre boss, alors tu peux faire ton propre horaire. Oui, c'est le fun. Et tu te fais payer un salaire de misère sans nécessairement avoir de recours parce que quand t'es pas employé, ben, t'es travailleur indépendant. Fait que c'est toi qui négocie ton contrat. Fait que si t'es pas content de ta rétribution, ben, tu peux partir. Alors, c'était quelque chose que je trouvais intéressant au niveau de la Californie, qu'on voulait englober ces entreprises-là et les obliger à traiter leurs employés comme des... leurs sous-traitants comme des employés, ce qui leur aurait permis, par exemple, d'avoir un plus grand nombre de gens avec une assurance maladie, des assurances travail, bref, tout ça. Un syndicat, qui sait, hein? Mais malheureusement, c'est pas à moi de juger le vote des Américains, mais environ 58% des votes ont été exprimés en la faveur de la proposition 22 qui permettait à ces entreprises-là comme Uber, Lyft, Instacart, DoorDash de se retirer de cette AB5-là et qui leur permettent justement de continuer comme ils étaient, comme ils fonctionnaient avant. Ça a été un référendum public qui a coûté très cher au niveau, en fait, des dépenses pour cette élection-là. En fait, les grandes entreprises de Silicon Valley ont presque dépensé 200 millions en efforts pour leur assurer, en fait, qu'ils n'allaient pas avoir besoin de payer, d'offrir des services à leurs employés, à leurs sous-traitants, pardonnez-moi encore une fois. Alors, c'est un grand coup pour le mouvement ouvrier aux États-Unis, grand coup pour les gens qui pensaient que la Californie aurait peut-être été une porte d'ouverture pour adopter des lois pareilles dans d'autres États américains ou même dans d'autres pays, hein, clin d'œil, le Québec. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas pour le moment. Alors, des entreprises qui vont pouvoir continuer à engager des sous-traitants et à les traiter comme ils se font traiter présentement. Alors, c'est dans la cour de la Californie que ça s'est joué. Alors, on verra bien ce que cela donne pour l'avenir, en fait, de la consommation et aussi des livraisons comme ça à la demande. Pour l'instant, ça s'augure un peu mal, mais c'est quand même un vote qui a été très, très serré, hein, comme je me rappelle des résultats. 58% des votes ont voté en faveur, alors c'est quand même un résultat très serré. Il y avait plusieurs techniques utilisées par des entreprises qui étaient assez bizarres. Par exemple, quand on voulait demander un transport en Californie, on te demandait est-ce que tu es pour la Prop 22. Alors, avant de cliquer pour avoir ton transport, il fallait que tu dises que oui, tu étais pour, ce qui pouvait peut-être... Je sais que les gens sont libres de voter pour qu'est-ce qu'ils sont, mais peut-être ça crée un sentiment de sécurité pour ces gens-là en se disant « Ah, ben, si Uber me le dit de voter pour, ben, je vais voter pour, voyons donc. » Sans nécessairement, ben, peut-être oublier que les gens, qu'on aurait pu améliorer leurs conditions de travail, ben, c'était des humains et non des robots. Mais ça, ben, de leur côté, hein, pour des entreprises comme Lyft, que quand elle est devenue publique en 2019, elle a été évaluée à seulement 22 milliards de dollars. Uber a été évalué en 2019 à seulement 82 milliards de dollars. Alors ça, c'est beaucoup d'argent, mais pas pour les employés, malheureusement, de ce côté-là. Alors, en parlant de conditions de travail et d'employés, ben aussi Walmart, hein, qui met fin à un contrat, c'est aux États-Unis toujours, avec une entreprise de robotique et opte plutôt pour des travailleurs humains. Eh bien. Dans certains magasins Walmart, des robots ont parcouru les surfaces de vente et ont aidé à vérifier si les étagères étaient approvisionnées. Mais le détaillant de grande surface a maintenant décidé de mettre fin à ce contrat avec la société de robotique derrière ses machines, après avoir constaté que les gens pouvaient faire à peu près le même travail, selon un rapport du Wall Street Journal. Le rapport, qui citait des personnes anonymes familières avec la situation, a déclaré que Walmart avait récemment rompu ses liens avec Bossa Nova Robotics. Un porte-parole de la chaîne de magasins a déclaré au journal qu'environ 500 robots se trouvaient dans plus de 4700 magasins à la fin du contrat. Alors, la chaîne a connu une croissance assez significative pendant la pandémie de coronavirus, alors que les Américains achetaient du papier toilette, des cannes de conserve, des jeux de société et plus encore... Les ventes en ligne aussi de la société ont presque doublé au deuxième trimestre. Les consommateurs, oui, ont décidé, par exemple, de faire de l'achat par Internet, mais d'aller le chercher tout de même au magasin. Selon le boss de Walmart, en fait, cela aurait créé un défi pour les détaillants. Comment bien réapprovisionner rapidement les étagères et l'inventaire pour s'assurer que toutes les commandes faites par Internet ou bien faites en ligne soient bien remplies. C'est un peu comme la proposition 22 en Californie. Il y a une autre proposition. En fait, non, pardonne-moi. Je retire ce que je viens de dire. Alors, c'est quand même intéressant de ce point de vue d'avoir des robots C'est quand même assez intéressant quand on criait que les robots allaient nous remplacer, que finalement, pour Walmart, c'est aussi cheap pour eux d'engager du monde que des robots. Ça peut peut-être nous dire que les robots coûtent cher et que les gens coûtent pas cher, surtout quand tu es employé de Walmart. Ça aussi, c'est également très intéressant, ce soleil du côté des États-Unis. Allons-nous voir ça arriver de notre côté aussi au Québec, même au Canada, des robots qui s'occupent du stock dans nos grandes chaînes commerciales. On verra bien dans les prochaines années. Réparer l'ordinateur de votre voiture. Est-ce que c'est une chose qui vous intéresse? Vous savez, les automobiles, les voitures deviennent de plus en plus technologiques. Ils ont de plus en plus d'ordinateurs dans leur système de bord pour faire la contrôle, par exemple, de la température ou pour faire la contrôle d'autres utilités, là, dont le Google Play, des affaires comme ça. Alors, hier au Massachusetts, eh bien, un peu comme la proposition 22 en Californie, il y a une autre proposition intéressante auquel les habitants de cet État ont pu voter. La question numéro 1 sur le droit à la réparation venait modifier une loi votée en 2013 pour offrir aux consommateurs le droit de réparer eux-mêmes ou à faible prix leurs appareils technologiques. À l'époque, les pièces télématriques et les ordinateurs des véhicules routiers avaient été exclus. Ils sont dorénavant inclus dans la loi depuis hier. Et en fait, nous verrons peut-être plus de guides pour effectuer la réparation nous-mêmes de ces pièces qui deviennent de plus en plus complexes. Vous savez, avant, un auto, hein, c'était vraiment constamment des pièces mécaniques, des pièces physiques qui se changeaient, qui se réparaient. Et maintenant, ça devient de plus en plus des ordinateurs très technologiques. Et avec cette loi-là qui vient de passer, dès les véhicules de génération 2022, on va devoir avoir le droit de le réparer nous-mêmes. Alors, ce qui va peut-être faire baisser les prix. Les grands constructeurs automobiles qui étaient derrière le camp du non ont dit que pour eux, ça allait peut-être enlever des nouveaux features, des nouvelles options pour les automobilistes. Mais ça, je pense que c'est loin. Derrière l'esprit des habitants, là, de plus en plus, l'argent devient de plus en plus serré. On pourrait parler de la pandémie de coronavirus, mais on pourrait parler aussi du climat social qui fait que peut-être les gens ont plus envie de réparer leur bébelle au lieu d'en acheter. Il y a aussi peut-être la vision écologique aussi qui s'inclut là-dedans, parce qu'on veut s'assurer de protéger l'environnement et d'éviter la surconsommation. Et surtout une voiture, je pense que ça pollue pas mal de sa fabrication jusqu'à sa destruction. Alors je pense que si on peut en réparer de plus en plus, ce sera une bonne chose de fait. Et oui, toujours dans nos nouvelles techno. Là, on s'en va plus d'un point de vue un peu plus politique. Alors, j'en ai parlé dans les précédentes émissions. Les géants des réseaux sociaux, comme Twitter surtout, et Facebook, ont bien surveillé les publications hier, en cette journée électorale, comme on le savait déjà. Il y a le tweet de Donald Trump s'autoproclamant victorieux qui fut balisé par les grands sites. Des avertissements ont apparu en dessous du message. Et qui faisait état que il ne faut pas oublier que les résultats sont toujours en décompte. Alors on est de plus en plus habitué à ce genre d'avertissement sur notre écosystème numérique. Rapidement, pardonnez-moi, je me demandais si cela était réellement utile pour la propagation de fausses nouvelles. Alors c'est alors que je suis tombé sur un article très intéressant du New York Times de hier qui nous expliquait que la technique utilisée par Twitter pour réduire la viralité d'un tweet non véridique de Donald Trump, c'est ça qui nous expliquait la technique. Alors dans son tweet de lundi, alors ça commence avec le cas de lundi, M. Trump a affirmé sans preuve que la récente décision de la Cour suprême d'autoriser la réception des bulletins de vote par correspondance en Pennsylvanie jusqu'à 3 jours après le 3 novembre permettrait une tricherie généralisée et incontrôlée et induirait la violence dans les rues. 36 minutes après la publication du tweet, Twitter l'a étiqueté comme contenant un contenu contesté ou trompeur sur l'élection. Alors c'était la deuxième fois que la firme de Jack Dorsey, Twitter, utilisait cette étiquette sur l'un des tweets de M. Trump depuis la mise en jour de ses politiques de lutte contre la désinformation électorale le 9 octobre. Il avait également utilisé l'étiquette le 26 octobre dernier, lorsque M. Trump a tweeté sans preuve qu'il y avait de grands écarts, de gros problèmes et des écarts avec les bulletins de vote par correspondance. L'acte de Twitter d'étiqueter le tweet de M. Trump lundi signifiait également que les gens ne pouvaient pas facilement partager le message, à moins qu'ils ne publient leur propre message avec son tweet cité en dessous. Cela a rapidement ralenti la diffusion globale du tweet, selon une analyse du Election Integrity Partnership, une coalition de chercheurs en désinformation. Alors, avant que le tweet de M. Trump ne soit étiqueté, il était partagé ou répondu environ 827 fois par minute, c'est quand même beaucoup. Après avoir été étiqueté comme une fausse nouvelle, cela a chuté à 151 fois par minute selon l'Election Integrity Project. Malheureusement, le message de M. Trump avait déjà été quand même retweeté plus de 55 000 fois et aimé plus de 26 000 fois avant, en fait, de le déclarer, peut-être on pourrait dire pas faux, mais comportant des informations erronées. C'est en fait de quoi d'assez intéressant de ce cadre-là. Peut-être, hein, peut-on dire, qu'il y avait des trolls ou des bots, hein, des robots qui publiaient seulement qui retweetent seulement les publications de M. Trump et que finalement, là, ils ne pouvaient pas parce qu'ils devaient eux-mêmes avoir un commentaire à dire sur cette situation-là. Et ben, peut-être le bot n'était pas configuré pour écrire un commentaire, justement. Alors, c'est peut-être pour ça que la propagation s'est quand même ralentie. C'est de quoi qui est quand même assez intéressant parce que cela permet rapidement de contrer la désinformation et peut-être des gens ont moins envie de partager ces publications-là malgré l'avertissement, en fait, grâce à l'avertissement qui est Twitter sur cette situation-là. Alors, peut-être ça fait un grand changement, on le sait pas de notre côté. On le sait pas de notre côté. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on le sait pas si ça a fait un changement dans le vote en tant que tel. Mais de notre côté, ben, en tout cas, je pense que ça peut assurer une certaine sécurité sur les réseaux sociaux. Mais tant qu'il n'y aura pas des grandes règles balisées mieux dans le contexte, et tant qu'il n'y aura pas peut-être une plus grande sécurité reliée aux identités des gens qui commentent et qui posent sur ces sites-là, peut-être on va continuer à avoir ce type de propagation de fausses nouvelles dans nos réseaux sociaux. De notre côté, on s'en va en musique et en publicité sûrement. Dead Obies s'en vient avec une chanson assez de thématique avec l'émission d'aujourd'hui, mais on s'en va à l'instant écouter la nouveauté CFAQ de la semaine. On va écouter l'AF avec la chanson Eastman. Tout ça et encore plus au CFAQ 88.3.
J'avais pas bu la veille. Les créneaux comme nos chapeaux veulent s'affaisser. J'ai fait le bon assez longtemps pour attendre le cocher. Les éléments s'alimentent, les mois comme un ricochet. Ce qu'on vit est salivant à l'image du trésor qu'on a repêché.
Cherche le pécule un peu déçu, jeune en cave avec peu de vécu. Cherche une sortie même. Les murs s'effritent comme les souvenirs. J'essaie de reproduire ce que j'ai vu loin des sentinelles. Faut lâcher l'émotion et tasser les codes. Nouvel horizon, j'ai retracé les codes. Dans la maison de trois pattes et des potes. On profite de ce qu'on a, de ce qui fait vivre. Lâcher l'émotion qui cache les autres. Reste avec moi, elles sont pas vraies les autres. Reste avec moi jusqu'au bout où je pourrais m'en casser les autres.
Gotta get loose, yet motivate. For the loved ones, puis les mal aimés. J'ai des filles souples, tout dépareillé. Injecter des plumes dans mes oreillers. Que des bonnes nouvelles dans mon oreillette. Depuis la cueillette, à cuillère de mes oraisons. Wanna get loose, soit mené. Wanna get stew, get mêlé. Premier baiser, good feeling. I got a scoop, pas donné. Wanna get loose for a minute. Wanna get stew, get mêlé.
Tellement de projets, tellement ta vie de fête de perdre, c'est dingue. Gotta chill, man. Transcende ton être avant que la route file, man. Mes feelings sont les bras, t'en même tes peines. Keep it real. Embrasse ta mère, props aux homies. On se voit tout à l'heure. J't'en calme, mais j'crois que j'sens plus mes pieds. T'amener à force, plus m'être collé à mon but. J'te promets, j'connais le taf, je le tue le métier. On se croyait refait, t'es dehors pour me comme des mitaines. J'crée des migraines dans mon lit, regret sur le côté, j'suis mété.
Yeah, le crew immaculé, le truc est marvelous. Le repos gratiné comme tab. Maison dans la valise, peu de vent dans la vallée. On dérive dans le vis, longue date. Donne sans plus, j'veux la grande assiette live. C'est le mindset simple quand y'a pas assez de place. Donne sans plus, yeah we gotta get that. Money pour la famille, on est dans le même bail. Pour chaque fight, toujours une épaule. Une parole quand j'ai plus les mots. Pour chaque fight, toujours une épaule. Yeah, le whole team toujours dans le dos. Baby,
c'est notre filet. I got a scoop pour donner. Wanna get loose for a minute. Wanna get to get.
J'ai vécu un peu déçu, jeune en cave avec peu de vécu. Cherche une sortie même.
Les murs s'effritent comme les souvenirs. J'essaie de reproduire ce que j'ai vu loin des sentinelles.
How we hustle in the sun? How we hustle in the sun? How we hustle in the sun? this motherfucker. Your boy Freeze Rod Shotgun with a Reebok pump and a 808 so cheap. Yeah, get it straight, punk motherfucker. Everything we do is straight. Money over bridges every day, nigga.
Midi 50 avec toujours avec Éric Taverdure devant vos écrans. By the way, grand problème de radio en fait que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de vous dire les chansons qui ont passé dans le premier bloc. Alors on a eu Capitaine Robot des Ghouls, on a également Regarde-moi des Hôtesses d'Hilaire et on a écouté également À mes filles de Mort au pourri. Alors, un beau trio musical qu'on a eu aussi en première partie de l'émission. Alors, dernier petit sujet de ce show qui est déjà presque terminé. Malheureusement, je sais, mais toujours disponible en rediffusion sur les ondes de, en fait, sur le site de CFAQ.ca et très bientôt sur vos plateformes de balado-diffusion pour vos oreilles. Parlons en fait de cette nouvelle loi sur la radiodiffusion. Alors, c'est le ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, qui veut mettre un peu d'ordre dans cet univers virtuel où tout est permis. J'aime ça, entendre ça. Après l'avoir promis pendant des années, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a enfin fait quelque chose. En fait, ils ont enfin déposé mardi à la Chambre des communes le projet de loi C10, qui vise essentiellement à soumettre les géants du web à la loi sur la radiodiffusion. Selon le ministre Guilbeault, la pièce législative permettra un meilleur encadrement des diffuseurs vidéo comme Netflix, Apple TV, Disney+, Crave, Tout.tv, mais aussi des entreprises spécialisées dans la diffusion de musique en ligne comme Spotify, Apple Music et Québécois Média avec Cube Music. Les médias sociaux qui téléversent eux-mêmes du contenu sur Internet y seront également assujettis, mais leurs utilisateurs pourront continuer de partager des vidéos et de la musique sans crainte d'être punis de quelque façon que ce soit. Ça, on aime ça lire ça. Alors, sinon, si on parle de ce projet de loi, en fait, pourquoi ce projet de loi-là a-t-il été développé? En fait, la dernière grande réforme de la loi sur la radiodiffusion remonte à 1991, avant la naissance de votre animateur aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas mal l'améliorer, de l'ajouter. En fait, que fait le projet de loi? Ils vont confirmer que la radiodiffusion en ligne est couverte par la loi. Mettre également à jour les politiques de radiodiffusion et de réglementation, notamment en reflétant mieux la diversité de la société canadienne, comme l'égalité des sexes, la communauté LGBTQ2+, les communautés racisées et les personnes handicapées et les peuples autochtones. Ça sert aussi à créer une approche plus souple à la réglementation qui permettra en fait au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'établir des règles pour les services qui exercent des activités de radiodiffusion au Canada, qu'ils soient traditionnels ou en ligne. Ça va pouvoir aussi moderniser les pouvoirs d'exécution du CRTC et mettre à jour les dispositions relatives à la surveillance et au partage d'informations afin de renforcer le rôle du CRTC en tant qu'organisme de réglementation moderne et indépendant. Alors, c'est pas mal ça qui s'en vient. Là. C'est sûr que c'est un peu de jargon politique et tout ça, mais c'est qu'en fait, ça va venir encadrer, par exemple, la conception, le financement, la production, la promotion d'émissions canadiennes audio et télévisuelles. Ça va également soutenir la promotion et la formation des créateurs canadiens. Et ça va également pouvoir offrir un soutien pour les personnes, la participation des personnes, des groupements, des organisations qui représentent l'intérêt public dans le cadre des instances du CRTC. Alors, ça va permettre une plus grande diversité, en fait, dans le système de radiodiffusion canadien. Alors, ça va ressembler à quoi? On ne sait pas encore. Est-ce que ça va être des quotas qu'on va devoir faire? Par exemple, Netflix, vous devez passer 50% de contenu canadien, comme on le voit dans les radios. On verra bien de ce côté-là. Je ne pense pas, parce que sinon, on va se retrouver avec... est-ce que, par exemple, une série qui aurait été créée en Finlande, mais qui aurait été traduite au Québec, au Canada, anglais, vocalement, tu sais, vous savez, de l'audio, là, est-ce que ça va être considéré comme du contenu canadien? Parce qu'il y a des Canadiens qui vont travailler là-dessus. Bref, j'ai hâte de voir ce que M. Guilbeault nous emmène dans ce projet de loi-là. Il ne faut pas oublier qu'il faudra que son projet de loi soit assez généraliste et soit autant plaît aux conservateurs comme au NPD, comme au Bloc, parce qu'il ne faut pas oublier que le Parti libéral du Canada est toujours minoritaire actuellement. Alors, il va avoir besoin de toute l'aide pour passer. Mais c'est sûr que dès qu'on va en entendre parler, parce que c'est passé hier, ça a été déposé hier, dès qu'on va en entendre plus, je vais être au rendez-vous pour vous en parler davantage. Ça va également permettre peut-être de recueillir la TPS sur aussi les services de ces compagnies-là. Alors, peut-être un peu plus d'argent pour les coffres des États canadiens et québécois. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée sur les ondes du CFAK 88.3. Je me déconnecte de ce pas et je retourne aller regarder les résultats de l'élection américaine en mordant les doigts. Et pendant ce temps-là, je vous souhaite exactement de passer une très bonne après-midi. On se revoit mercredi prochain, midi. Et sinon, ne manquez pas toute notre programmation merveilleuse, dont le Touski, tout à l'heure, sur les ondes de CFAK vers 16h, votre show du retour à la maison. Sinon, plein d'autres choses à écouter à CFAK, dont les Désastrologues, dès 20h. Alors, passez une bonne journée, encore une fois, et à la prochaine!